autour de la question à Marseille.
Pourquoi tout migre ?
Au festival Allez Savoir.
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver sous le vent marseillais, chers amis auditeurs. À l'ombre de la chapelle de la Vieille Charité, dans notre studio nomade, installé par Hugo Violas sous les voûtes au deuxième étage de cet ancien hospice emblématique de la ville phocéenne, devenu pendant 5 jours le centre névralgique d'Aller Savoir. Le Festival des sciences sociales de l'EHESS, deuxième édition, tout migre. Un thème qui résonne particulièrement ici à Marseille, à quelques encablures des bateaux qui vont et viennent sur la Méditerranée. Ici, tout migre et depuis toujours, à commencer par nous, les humains. Mais pourquoi et surtout comment ? Comment porter un autre regard sur la et les migrations ? Il y a urgence à sortir des clichés, des préjugés et des idées reçues pour nous mettre simplement à l'écoute de tous ces parcours pluriels et singuliers. Comment les nouvelles approches pluridisciplinaires et sensibles, notamment autour du son, comme porte-voix, porte-parole, vont nous permettre d'appréhender autrement ce qui se joue dans tous ces allers et retours bien plus riches, divers et complexes qu'on ne veut le penser. Voilà ce que nous vous proposons de découvrir ensemble grâce aux enquêtes sonores, musicales et radiophoniques de nos invités, Lama Kabandji, chercheuse à l'IRD, au laboratoire Population, Environnement et Développement, et Aissatou Mbodjpoui, anthropologue au CNRS, autour de la question « Comment mieux comprendre les migrations ?» Bienvenue pour commencer par y prêter l'oreille ici à Marseille.
Voilà, donc moi j'ai choisi Marseille parce que c'était parce que j'avais pas beaucoup d'argent et c'était pas loin de l'Algérie. On pouvait prendre le bateau quand on n'a pas assez d'argent, on pouvait prendre un vol en une heure, on est chez soi. Et puis il y a la ville, elle est pauvre déjà, et donc c'est plus facile de s'en sortir à Marseille qu'à Paris.
Le plasticien algérien Yazid Oulab, dans un extrait de votre enquête radiophonique, Lama Kabandji, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'IRD, au laboratoire Population, Environnement, Développement du CEPED, responsable de l'observatoire Mobélite. Vos recherches portent sur les migrations internationales, les politiques migratoires, les mobilités étudiantes et scientifiques. Vous êtes une chercheuse de terrain, que ce soit au Liban, au Sénégal ou ici à Marseille. Vous avez choisi, Lama, le son, la parole, mais vraiment le son comme méthode d'enquête. Alors pourquoi ?
Alors, juste avant de répondre à la question, juste pour préciser que je suis dans deux laboratoires. Il y en a un qui est à Paris qui s'appelle le Centre Population Développement, c'est le CEPED. Et le laboratoire dans lequel je suis en accueil à Marseille s'appelle le Laboratoire Population Environnement Développement, qui est le LPED.
Merci pour ces précisions. Et il n'empêche que c'est bien sur le son que vous travaillez, là, Mata Bonji.
Tout à fait. Donc, je veux juste revenir aussi un peu en arrière pour expliquer comment j'en suis arrivée à travailler sur le son. Moi, à la base, j'ai été formée en démographie à l'Université de Montréal, parce que je suis aussi canadienne par ailleurs. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les chiffres. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'aller à la rencontre des personnes qui sont cachées derrière ces chiffres. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à explorer d'autres méthodes d'enquête que des enquêtes quantitatives, etc. Et donc, depuis très longtemps, j'écoute la radio, je suis très sensible au son et j'ai commencé à réfléchir à l'enquête sonore comme méthode, à la fois comme méthode d'enquête, mais aussi comme méthode de transmission de la parole, des récits, des vécus de personnes qui viennent d'ailleurs et qui est une méthode qui permet aussi que ces personnes-là soient expertes de leur propre mise en situation, soit d'étrangers, d'immigrés, etc. C'est de cette manière-là que je suis arrivée au son et c'est aussi par la rencontre avec un ingénieur du son et un créateur sonore qui s'appelle David Aupetit qui est installé à Marseille, mais aussi la rencontre avec une association qui s'appelle Transmission Développement dont le directeur est Kasser Korili.
Ici à Marseille également.
Ici à Marseille également. De même qu'un documentaire sonore que j'avais réalisé avec une amie, Marion Cross, à Radio Grenouille, il y a quelques années déjà.
Radio Grenouille, célèbre radio marseillaise. Donc on voit bien que c'est vraiment le son, la parole, mais aussi, et on va en entendre des extraits, vraiment une méthode radiophonique pour à la fois recueillir la parole de l'autre, qu'il puisse s'exprimer, et que nous, on puisse la recevoir et justement changer, voire inverser le regard. Alors inverser le regard sur les routes migratoires pour sortir des clichés à sens unique et des idées reçues, c'est aussi votre approche tout aussi sensible. Aïssatou Mbodjepouy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue au CNRS. Vous explorez et vous collectez sur le terrain, notamment en Afrique de l'Ouest, au Mali, les pratiques expressives et musicales. Issues des différentes migrations, vous avez notamment ouvert, Aïssatou, un chantier de recherche à Kaï, au Mali, sur les traces et les archives de la migration. Alors là, ce sont des traces sonores et surtout musicales qui disent aussi une autre histoire.
Oui, l'enjeu est de dépasser des discours convenus et largement sous un prisme sécuritaire qui sature les discours médiatiques ici en Europe pour considérer dans une société d'émigration et engagée dans des pratiques de mobilité dans la durée, comment est-ce que les gens réfléchissent sur ces questions et voilà, rappeler qu'ils il y a des perspectives propres aux sociétés d'émigration et qu'il s'agit de saisir dans leur historicité.
C'est-à-dire d'inverser le regard ou de changer l'endroit d'où l'on regarde l'émigration. C'est
oui.
Ça, hein ?
Alors c'est une pratique relativement courante en anthropologie, mais là, sur cette région qui est relativement documentée hein, du point de vue de la migration.
Au Mali ?
Au Mali, à l'ouest du Mali, autour de la ville de Kaï, il s'agissait de tourner sur ce terrain très arpenté, peut-être qu'on pourra y revenir, pour essayer de constituer une archive des débats en fait autour de l'émigration et des retours.
Et des retours, mot oui. Très important, parce que l'émigration, on l'oublie toujours, hein, comme vous dites, dans ce côté très quantitatif dans lequel on est noyé, on l'oublie souvent, ce sont aussi des retours, ce sont des migrations internes, évidemment bien plus nombreuses sur le continent africain lui-même que hors de ses frontières. On a eu des idées fausses et c'est aussi une façon de se rapprocher d'autres réalités autour des migrations.
Exactement, de prendre au sérieux ce que des personnes qui sont concernées par les migrations, que ce soit des migrants eux-mêmes ou leur famille ou d'autres qui observent ces phénomènes, la manière dont eux y donnent sens. Alors je ne suis pas du tout spécialiste de la musique ni du son et dans des travaux précédents j'avais travaillé sur les écrits personnels dans des cahiers de paysans. Et donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était de trouver des archives personnelles et des lieux d'expression vernaculaire, hein, quelle que soit la langue, mais très souvent, du coup, ça va être dans des langues qui sont parlées localement. Et je suis un peu tombée sur des objets sonores et musicaux au
des
cours de cette enquête.
Des trésors musicaux que vous allez présenter ici aussi, hein, que vous avez présenté ici aussi, Aïssatou Mbodjepouy. Que vous allez présenter aussi parce qu'il y a des trésors musicaux, il y a des chansons, on y viendra, vous nous en passerez quelques-unes entre les oreilles autour de la question pourquoi tout migre et dans tous les sens, on va s'en rendre compte avec tous nos sens. Question ouverte donc ici à Marseille au Festival des sciences sociales. Je vous propose d'abord, avant de continuer notre discussion, un nouvel éclairage à remonter le temps. Cette fois-ci, c'est celui de la paléogénéticienne Eva Maria Gegel, spécialiste de l'ADN ancien.
Notre histoire, c'est une histoire de métissage, de migration, une histoire qui a commencé en Afrique. Donc oui, moi je dirais, on est tous d'une certaine manière, tous des Africains, tous des métis et tous des migrants.
Juste un petit rappel, en passant sur le temps long de notre humanité toujours en mouvement, ça ne fait pas de mal par où ça passe. Ici au festival Tout Migre, nous sommes à Marseille, pour ce festival des sciences sociales autour de la question comment mieux comprendre les migrations. Et vous nous avez proposé, Aïssatou Mbodj, d'écouter Diaba Doua Camara avec cette chanson Baba Lemounou qui fait l'éloge des migrants qui contribuent au développement de leur pays. On l'écoute et vous nous en direz un mot ensuite.
Baba le mono la vida.
Baba Lemounou, Diaby, Doua Camara sur RFI ici à Marseille au festival Tout Migre. Très joli choix, Issatou Mbodji. Pourquoi ce choix-là, cette musique-là précisément ?
Eh bien, Diaby Doua Camara est un migrant soninké qui est arrivé à Paris en 1974, à un moment donné où la migration depuis la région de Gaï et au-delà toute cette partie de l'Afrique de l'Ouest était particulièrement importante et c'était une migration d'hommes qui venaient d'abord seuls et qui vivaient dans les foyers de travailleurs migrants et il a commencé à jouer d'un instrument dans les foyers de travailleurs migrants, hein, le molo, et autour de lui s'est constitué le groupe Soninkara qui a été actif dans les années 80 et 90 et dans cette chanson Diaby Doua fait à l'éloge des migrants aussi en mentionnant donc le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, donc c'est pas simplement
c'est toute l'Afrique de l'Ouest,
voilà,
hein.
et il fait à l'éloge des migrants qui construisent au pays, donc voilà, c'est dans ce discours assez établi selon lequel celui qui part ne doit pas oublier son village d'origine, c'est la localité d'où il vient, et ces dynamiques de constitution d'associations et d'investissements sont particulièrement développées dans la région de Kaye, au Mali.
De quoi changer notre regard et nous ouvrir les oreilles justement avec cette musique-là. Nous sommes à l'ombre de la chapelle de la Vieille Charité ici à Marseille au festival Tout Migre de l'EHESS où nous avons posé notre studio nomade autour de la question comment mieux comprendre avec les oreilles l'émigration. Nous sommes en compagnie donc de l'anthropologue Issatou Mbodji qui nous rappelle que l'émigration se fond dans tous les sens et avec tous nos sens et de la chercheuse de l'IRD Lama Kabanji qui nous fait partager des parcours singuliers qui ne correspondent pas vraiment et c'est tant mieux à l'image, comment on va dire, d'Épinal monolithique qu'on a trop souvent des migrants grâce à des enquêtes que Lama fait, audio et radiophonique réalisées ici à Marseille avec David Opetit au son. Nous retrouvons, chers amis auditeurs, le plasticien d'origine algérienne Niazi Doulab pour un nouvel extrait.
Après, quand tu es arrivé au Beaux-Arts ici, c'était la catastrophe naturelle. Après le ravin du bonheur avec les Beaux-Arts d'Alger, je me suis retrouvé dans un ravin catastrophique à Marseille où ils m'ont dit « Mon coco, pourquoi vous faites de l'art ?» Pour être un artisan, pour être un faussaire ou pour être un créateur. Et c'est à partir de là où il y avait des circonstances avec des personnes très intéressantes qui m'ont donné à réfléchir sur ce que c'est que l'art. Parce que quand je suis arrivé à Marseille, je faisais de la peinture. Et j'ai appris que la peinture n'a rien à voir avec ni l'Algérie ni l'Afrique. Parce que tous les plus grands artistes internationaux, universels, sont tous des Occidentaux. Il n'y en avait pas un seul artiste africain dans un musée important. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'il faut réfléchir autrement.
Yazid Oulab, auprès duquel vous avez enquêté, réalisé une exploration radiophonique, la Macabandji, a donc réfléchi autrement, hein, à partir de l'idée de l'outil, du clou. Il est désormais un sculpteur reconnu ici à Marseille. C'est aussi pour sortir, comment dire, de l'image misérabiliste qu'on a parfois des migrants, la Macabandji, que vous menez ces explorations radiophoniques, ces enquêtes au plus près, qui nous dressent d'autres portraits finalement, d'autres parcours de migrants que ceux qu'on entend habituellement.
Alors tout à fait, notre point de vue, notre angle d'attaque dans ce travail, qui n'est pas qu'une enquête radiophonique, parce qu'on n'a pas trop le temps d'en parler, mais à l'enquête radiophonique, il y a aussi des recherches sur une analyse des politiques, des législations qui s'appliquent à différentes personnes dans différents secteurs du travail en France. Et ce travail-là est mené avec d'autres chercheurs, notamment du CEPED, comme Mina Kleisch, qui s'est beaucoup intéressée à la question des savoirs et de la circulation des savoirs.
Donc c'est à partir de ces enquêtes radiophoniques que vous pouvez aussi, avec d'autres chercheurs toujours pluridisciplinaires, travailler sur le partage des savoirs, la localisation des savoirs et comment ça se passe.
Exactement.
Ou plus ou moins mal d'ailleurs.
Tout à fait. Et l'autre, du coup notre angle d'attaque, c'était de se dire, en fait on est saturé de discours, surtout médiatiques, aujourd'hui en France, qui nous montrent à quel point l'immigration c'est négatif, c'est un poids pour la France, etc. Et on ne parle jamais de ce qu'apportent ces personnes lorsqu'elles viennent ici. Notamment, quel type de savoir elles apportent avec elles, comment ces savoirs-là sont reçus, comment ils circulent, et comment ces savoirs-là, souvent, ne sont pas valorisés sur le marché du travail, puisque les travailleurs étrangers se retrouvent souvent à la marge du système de production capitaliste français, assignés à des positions subalternes, sous prétexte qu'ils n'ont pas un diplôme français ou qu'ils n'ont pas la nationalité française. Et donc, avec ce projet-là, et avec une approche sensible, une approche sonore, l'idée, c'était de mettre en valeur ces savoirs-là, à travers la manière dont ces personnes-là en parlent elles-mêmes, elles nous expliquent leur travail, et en même temps, on en profite pour les interroger sur leur parcours, ce qui les a fait venir ici, comment ils vivent la migration, est-ce que c'est une circulation, est-ce que c'est vraiment une coupure radicale avec le pays d'origine pour des raisons X ou Y. Et c'est là aussi que l'approche biographique est très importante, puisqu'on interroge les personnes sur leurs histoires de vie. Et on voit un peu comment différents facteurs d'ordre familial, professionnel s'enchevêtrent pour expliquer là où ils sont arrivés, mais aussi expliquer comment ils travaillent et comment leur travail est valorisé ou pas.
Est-ce que vous avez été surprise au cours de ces enquêtes? Est-ce que vous vous attendiez d'abord à ce que ce soit aussi riche que ça? Pas seulement pour nous, auditeurs. Moi, j'ai eu le plaisir d'écouter une rencontre avec un joueur de kora. On aura l'occasion d'écouter aussi un jeune vidéaste algérien. Pas seulement pour celui qui écoute, mais est-ce que vous-même, donc, en tant que chercheuse, vous avez été surprise par la variété des parcours, par la variété des histoires? J'ai envie de dire la singularité et en même temps l'universalité. Moi, c'est ça que je ressens.
Et tout à fait. Et je pense que Marseille est le lieu idéal pour faire ces rencontres. En fait, moi, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Je continue à en faire parce que le projet continue. Notre idée, c'est de vraiment faire une série de portraits sonores qui, petit à petit, vont construire un peu une photographie de la mosaïque migratoire en France aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser à des personnes qui travaillent dans différents secteurs. Là, aujourd'hui, on va plutôt écouter des personnes qui travaillent dans le secteur de la culture, parce que c'est un peu par là qu'on a commencé. Pendant le confinement, c'était plus facile de les rencontrer. Mais on va également rencontrer des personnes qui travaillent dans le travail agricole, dans le personnel hospitalier, où les travailleurs étrangers sont très représentés, mais aussi dans l'enseignement supérieur et la recherche, les étudiants étrangers, les chercheurs étrangers, leurs contributions, etc. Mais effectivement, je pense que, en tout cas d'un point de vue personnel et d'un point de vue de chercheuse, ce projet me permet de faire des rencontres assez exceptionnelles. Et je pense que Marseille est un lieu de rencontre et est un lieu par lequel sont passés des gens avec des parcours incroyables.
On attend les Comoriens, comme vous êtes à Marseille. Je pense qu'on y aura droit. Autour de la question, comment mieux comprendre les migrations dans leur diversité? Je propose un nouvel éclairage qui continue dans la même veine de ce que vous venez de dire. Cette fois-ci, c'est vu de Saint-Louis. Au Sénégal, c'est l'éclairage de Mam Pendaba, professeure en sciences politiques à l'université Gaston-Berger à Saint-Louis, fondatrice et directrice du laboratoire d'analyse Société et Pouvoir Afrique Diaspora, le LASPAD, et désormais rédactrice en chef d'une toute nouvelle revue scientifique et pluridisciplinaire Global Africa. Mam Pendaba nous remet elle aussi les idées en place et dans le bon sens.
La première chose, c'est de considérer qu'en réalité, la règle la norme, la normalité, c'est la migration, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Qu'il y ait cette sorte de peur panique autour du fait que les gens bougent, se déplacent, viennent, etc. Et le fait que les mots même changent de voilà, et qu'on parle d'envahissement ou de choses de ce genre-là, c'est ça qui est terrible, en fait. Je pense que de ce point de vue-là, il y a une déconstruction assez radicale à opérer. Le mouvement naturel, c'est celui du déplacement, de la mobilité, de la circulation, et c'est le reste en réalité qui est problématique. Et je pense qu'il faudrait surtout s'attarder sur les politiques, on va dire, de gestion qui voudrait en réalité sédentariser des populations qui sont en âge et ont besoin de se déplacer. C'est ça qui est véritablement, à mon niveau, je pense, le véritable problème. Sans compter le fait que, encore une fois, c'est le débat sur la migration est aussi biaisé parce qu'on parle des bateaux qui arrivent, on parle de ces jeunes qui ont l'air de venir littéralement envahir le continent européen. On ne parle pas de ceux qui rentrent ou on en parle très peu. Est-ce qu'on a des statistiques sur des personnes qui reviennent? Est-ce qu'on a aussi des statistiques sur les populations, puisqu'on parle de chercheurs, sur les populations de chercheurs qui vont dans les pays de l'OCDE, où vous savez peut-être que 13%, encore une fois, de cette population, qui est une population éduquée et cultivée, rejoint les pays de l'OCDE. C'est l'un des taux les plus élevés au monde. Et vous savez aussi certainement que 18% des femmes chercheurs quittent aussi le continent. Si on a une analyse genre, c'est quelque chose qui est aussi important. Sortir des gros nombres nous permet de regarder en réalité ce qui se passe et éventuellement de reposer les choses, de se rendre compte que, encore une fois, mais ça on l'a dit et répété, cette migration africaine, elle est d'abord intra-régionale, elle est intra-continentale, que les proportions qui sortent ne sont pas si importantes que cela, que certains parmi eux reviennent. Je pense à moi et à tous ces collègues-là qui vont faire des études à l'extérieur, pays de l'OCDE généralement, mais qui reviennent dans leur pays, ensuite qui sont dans un mouvement circulaire. En réalité, il y a des gens qui vont, qui viennent, qui restent, qui s'attardent quelque part. Et je pense que c'est aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, ce mouvement de circulation qui doit être équitable, qui doit être la règle et la norme. De toutes les façons, on ne peut pas retenir ces populations-là.
J'imagine que vous voulez réagir toutes les deux. Qui est-ce qui commence à cet éclairage de Mampendaba? Aissatou Bodji.
Oui, je pense qu'effectivement, ce sont des rappels très utiles. Dans la région de Kaï, au Mali, la première chose, c'est que si on considère les choses dans la durée, il y a eu des mobilités aussi bien dans la sous-région, vers la Sénégambie, au début du XXe siècle, pour cultiver l'arachide, dans les mines au Libéria, en Côte d'Ivoire énormément, beaucoup en Afrique centrale, et qu'ensuite, il y a un moment, effectivement, à la fin des années 50, où il y a une migration de travail qui se développe en particulier vers la France. Mais même dans cette région qui est très marquée par l'émigration vers la France, on a aujourd'hui moins d'un quart des émigrés qui sont en Europe. Le reste étant principalement ailleurs dans le continent africain.
C'est ça, et ça c'est vraiment quelque chose de très important à rappeler, bien et qu'on sûr. Évacue nous complètement en bien Occident, sûr. Enfin en Europe.
Bien sûr, avec même des taux de migration vers la France qui diminuent, et je pense que le Covid va aussi être un événement important dans de reconfiguration de ces mobilités. Mais le point important, c'est quand on les voit dans la durée, on voit bien que il n'y a pas du tout un mouvement unidirectionnel, mais au contraire des phases et des réorientations parfois rapides. Je voulais aussi rebondir sur ce qu'avait dit Lama tout à l'heure, oui. Parce qu'il me semble très important de réfléchir au savoir. Dans son approche, il s'agit des savoirs des migrants eux-mêmes et qui sont invisibilisés en fait dans des sociétés où ils ne sont pas du tout mis en valeur et immédiatement considérés comme des travailleurs non qualifiés. Ma démarche s'inscrit aussi dans cette perspective, voilà, dire que les gens, même avant de partir, savent déjà largement à quoi s'attendre. L'idée d'un déficit d'information qui motiverait la migration donne lieu à des campagnes assez caricaturales d'information dans les pays du Sud, comme si il suffirait de montrer l'image d'un bateau pour que des gens ne partent pas, alors qu'ils sont bien sûr très informés. Et voilà, pour ma part, j'insiste sur le fait que Les gens réfléchissent. Voilà, partir en migration, ça n'a rien d'anodin à l'échelle individuelle, familiale et collective. Et donc, voilà, à la fois le fait de partir, mais aussi ensuite l'absence, tout ça, ce sont des événements majeurs qui donnent à réfléchir et produisent des discours qu'il faut analyser dans leurs détails. Alors, ce n'est pas évident parce qu'il faut aller regarder des sources dans des langues vernaculaires. Pour ma part, voilà, mon soniquet n'est pas encore très établi. Il faut que je me fasse aider pour comprendre les textes sur lesquels je travaille, mais je pense que c'est important.
Puisque vous parlez de Soinké, je vous ferai réagir, hein, Lama Kabandji, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire, mais je ne résiste pas tout de même à vous faire écouter, chers amis auditeurs, bah justement, en langue Soinké, un petit extrait que vous nous avez passé, Aissatou Mbodjipouy, parce que vous travaillez avec et sur les formidables archives d'une radio rurale, la radio rurale de Kai, dont on salue en passant les animateurs, et qui propose, en langue Soinké, donc, une émission dédiée aux migrants de retour au pays, ceux qui sont partis travailler. Alors on l'a dit, ça peut être au Sénégal, ça peut être en France, ça peut être ailleurs. On écoute le jingle et le début de cette émission en version originale Soinké.
Tunganta dambetu Kararantire fage katampa banka. Keni maslangea.
Agagiliti khai kibaru weranga.
Marabu seniko waga kuini lenkioga debebedi owa jongaga. Tunganta dambetu khai matubagani olemununga kuntire jongaga lemunu.
Alors le titre de cette émission, j'aurais du mal à le prononcer, puisqu'il est en Soinké, Tunganta Dambetu, proverbe bien connu en Soinké que vous allez nous faire partager, cher Aissatou Mbodji.
Oui, alors c'est un proverbe qui est intéressant puisqu'il en existe aussi une version bambara, Tungate Dambedon. Donc on voit que ça circule très largement en Afrique de l'Ouest. Et une traduction littérale, c'est l'exil ne connaît pas la dignité. Donc l'idée, c'est un sorte de conseil à celui qui part en lui disant là où tu vas, tu ne seras pas connu ou placé dans une hiérarchie sociale. Donc ça rejoint aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Alors Tunga, ça démarre quand, par exemple, une femme est mariée dans un village un peu loin. Ça, c'est déjà du registre de ce déplacement et de cette migration. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi dire à quelqu'un qui va dans un pays voisin. Ce n'est pas spécifiquement lié à la migration vers l'Europe. Et donc, dans le jingle, les animateurs de la radio rurale, donc radio qui a été créée en 1988, ont repris donc ce proverbe et ont ajouté donc une suite. En fait, il y a plusieurs suites possibles, mais là, la suite, c'est « Jeune valeureux, travaille en vue de rendre tes parents fiers de toi. En tout cas, travaille pour ta famille, ceux qui sont restés au pays. » Donc, on retrouve l'idée évoquée plus haut par Diabidoua.
Et leur but à ces animateurs, c'est de partager localement avec ceux qui sont revenu au pays, de faire entendre ce qui se passe dans la migration, c'est d'avoir, parce que c'est pour nous c'est très important d'avoir justement cette écoute-là, ce regard-là, même si on ne comprend pas, mais avec votre intermédiaire, enfin de voir comment c'est perçu de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique.
Alors dans ces émissions, il se passe des choses très différentes. Donc là par exemple, celle qui est introduite, c'est Oumar Diagouraga qui se rend dans un village à Diongaga pour inaugurer je crois un château d'eau, quelque chose qui a été réalisé par des émigrés organisés en association. Donc on a cet aspect donc déjà évoqué dans l'émission de voilà du travail
du
collectif
sur place.
Et, voilà, et de l'investissement collectif, mais d'autres émissions s'intéressent à des aspects moins débattus publiquement. Par exemple, on a des émissions où des hommes considèrent que à un moment donné, où quand on part en France, on y reste de plus en plus plus longtemps, dans les années soit à partir de 74, mm-hmm. voilà, et se disent, mais alors comment on va faire ? Est-ce qu'on reviendra assez souvent voir nos femmes ? Est-ce qu'on aura assez d'enfants ? Et donc des sujets très intimes qui sont au cœur de leurs préoccupations aussi. Et ça me semble important de considérer ce type de source dans leur complexité, parce qu'elle donne à voir des considérations sur l'immigration qui sont très, très différentes et très ancrées dans les perspectives de chacun.
Lama, j'ai envie de vous faire réagir sur tout ce qui vient d'être dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cet intérêt, justement. Alors, à la fois, c'est pas vraiment d'inverser le regard, mais de porter le regard ailleurs sur nos migrations, de multiplier les approches aussi pluridisciplinaires du côté de la manière dont c'est reçu, dont c'est perçu, dont on en fait quelque chose sur place. J'aimerais bien vous faire réagir à tout ce que vous venez d'entendre, Lama Kabandji.
Merci. Ça me permet de peut-être parler d'une autre dimension qui est aussi quelque chose qui nous guide dans cette exploration radiophonique de l'immigration en France. C'est comment questionner la société française par ses marges, c'est-à-dire les personnes qui sont souvent à la marge de cette société, donc les personnes qui sont des travailleurs étrangers, qui sont des immigrés, et les entendre nous raconter leur expérience ici, comment ils ont eu à faire face à certaines expériences de discrimination sur le marché du travail ou dans d'autres contextes.
Le regard on ne les entend pas. Ils sont invisibles. Alors ils sont dans des statistiques innombrables, mais on ne les entend pas.
C'est pas seulement qu'on ne les entend pas, c'est que comment on s'adresse à eux, comment on les perçoit, et aussi en les écoutant. Interroger aussi le regard porté par certaines personnes ici sur leur pays d'origine. Et entendre, faire écouter ces différentes personnes qui nous racontent, un peu comme Hassan Ferhani, un vidéaste algérien qui vit à Marseille, dans lequel il nous parle par exemple de la manière dont ces films ont été reçus en France. Donc ces films portent tous sur l'Algérie. Et lorsqu'il a projeté l'un de ses films qui s'appelle « Dans ma tête, un rond-point », les commentaires qu'il a reçus, c'était par exemple quelqu'un qui lui demande pourquoi la jeunesse algérienne ne fait pas la révolution. C'était en 2017. Et donc, il a répondu « Et pourquoi en France, on ne fait pas la révolution ?» Donc, en fait, c'est aussi l'idée de ces émissions-là, c'est d'inverser le regard, justement, et de réfléchir à la société française avec des personnes qui viennent d'ailleurs.
Et précisément, je vais vous faire rebondir toutes les deux là-dessus, parce que Lama Kabandji, vous êtes aussi canadienne, mais vous êtes née au Liban, hein. Voilà, vous êtes donc libanaise. Aïssatou Bodjipoy, vous, c'est entre la Bretagne et le Sénégal, métissage entre les deux. Est-ce que le fait que toutes les deux et d'autres, François Héran, démographe, qui devait être avec nous sur cette table ronde, dit l'importance de changer aussi le regard des chercheurs et des chercheuses ? C'est-à-dire, d'où est-ce qu'on parle ? Est-ce que vous, Lama Kabandji, vous avez justement un autre regard parce que vous venez d'ailleurs ?
Quand on est des chercheurs, on est quand même des êtres sociaux et qu'on vient de quelque part. Et que forcément, notre histoire, elle a un impact sur les thématiques de recherche, sur la façon dont on fait les recherches. Et donc, je pense que c'est important de dire d'où on vient, d'expliquer notre posture. Et que des fois, ce n'est pas fait sous prétexte de neutralité de la science sociale qui, de mon point de vue, n'existe pas. Et donc, moi, je peux dire très clairement qu'ayant vécu l'exil, je suis partie à 12 ans du Liban à la fin de la guerre avec mes parents pour arriver à Montréal. J'ai vécu l'expérience du déclassement social avec mes parents en me retrouvant dans une banlieue assez pauvre de Montréal. M'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand j'ai commencé mes études, la question de la migration m'a tout de suite intéressée comme sujet de recherche. Et par la suite, j'ai travaillé sur l'immigration au Sénégal, qui était un pays que je ne connaissais pas du tout. Mais ça m'intéressait d'aller découvrir des questions, des problématiques liées à la migration. Et ma manière de les interroger vient également certainement de ma propre expérience migratoire. Et ce qui m'a un peu choquée quand je suis arrivée en France, moi je suis arrivée en France pour un post-doc. Je venais donc du Canada, de Montréal. Ce qui m'a un peu choquée en France, c'est quand je suis arrivée en 2009, j'avais quand même l'impression que la très grande majorité des chercheurs en poste qui travaillaient sur les migrations n'étaient pas des personnes qui étaient ni enfin, n'étaient pas des personnes qui étaient issues d'une immigration assez récente, en tout cas. Et ce n'est pas du tout le cas au Canada, qui est un pays quand même d'immigration et qui s'affirme aussi comme tel. Et donc, je pense que la pluralité des regards est extrêmement importante dans la recherche et que, par exemple, Abdelmalek Sayad n'aurait pas fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été algérien et s'il n'avait pas cette connaissance très fine de sa société d'origine. Et que, jusqu'à aujourd'hui, en France, cette pluralité des regards, elle manque.
Ça commence un peu à changer. Alors, Aïssa Toumbodji, c'est un peu différent pour vous, parce que vous êtes totalement française, d'une mère bretonne, c'est ça, et, oui. d'un père sénégalais. Mais tout de même, vous avez peut-être un autre regard, ou peut-être que sur place, au Mali, à Kaï ou ailleurs, vous êtes peut-être perçue différemment, je ne sais pas.
Oui, j'aime bien la manière dont Lama a présenté les choses aussi, non pas en termes d'un point fixe ou d'une position définitive, mais de variation. Voilà, on, sur le terrain, on fait varier les choses entre distance, proximité, familiarité, situation un peu plus complexe. Effectivement, sur le terrain, à Kaï, il y a parfois une réinterprétation de ma recherche en termes de quête familiale, alors que c'est pas du tout comme ça que je la conçois. Mais voilà, j'ai été parfois interrogée en ce sens et souvent prise très affectueusement comme une fille. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui est une manière de s'inscrire dans des rapports sociaux qui est productive. Après, moi, je pense mon engagement sur ces questions plutôt à travers des activités associatives. Et alors là, c'est très classique, hein, en faisant de l'alphabétisation en tant qu'étudiante dans des foyers de travailleurs migrants de la région parisienne. Et c'est là que j'ai rencontré des gens de la région de Kaï et qu'ensuite, je suis allée les voir. Donc là, dessus, je m'inscris dans les pas de bien des générations de chercheurs et de chercheuses.
Qui savent que d'où l'on parle, c'est très important, et qui savent aussi que tout migre. Nous parlons depuis ce port de Marseille, où le Festival Aller Savoir des sciences sociales, deuxième édition, Tout Migre, a posé ses valises pour 5 jours de rencontres, de débats, d'ateliers animés, là, ici en bas, dans cette cour de la Vieille Charité, avec les jeunes des collèges, des lycées marseillais, très présents, très curieux de débattre, ça c'est tant mieux, avec des chercheurs et des chercheuses. Pourquoi et comment tout migre, et si on avait tous le choix de la résidence? On continue de s'interroger avec vous deux, Aïssatou et Lama, juste après votre choix musical et méditerranéen. Lama Kabandji, c'est Slimane Azem et Noureddine Méziane qui résonnent dans le centre de la Vieille Charité à Marseille sur RFI, carte de résidence.
D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. نهني مانيش يلا وغرم ذي ثمرتيش أفلو مورد تمسلتيش كل أسد لي كونفيرانس كل أسد لي كونفيرانس بوري تدي تولي صانس Vraiment bien dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. Migrit tqabal yerna ssoum rkhisen wqarna stiyad la chance wqarna stiyad la chance mit sa'id la residence toujours des conversations le chômage et l'immigration après les négociations on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce, chaque fois ça recommence. يجي نصبر في تمور ثازي سنم الأمر ما يلي يلزم الصافر أبصر لا الديفيرانس
Azara la différence, Neila ou lâche la résidence.
Carte de résidence, Slimane Azem et Noureddine Méziane. Merci pour ce super choix musical. La Macabangi autour de la question comment mieux comprendre l'émigration. Nous sommes ici à Marseille, au Festival des sciences sociales, au centre de la vieille charité. Il va nous falloir faire un choix. Pour notre dernier éclairage sonore, extrait de votre exploration radiophonique, Lama, à Marseille, au plus près des parcours singuliers et pluriels des migrants. Allez, on écoute un extrait de votre rencontre avec ce jeune vidéaste algérien dont vous nous avez parlé. Vidéaste algérien de Marseille, Hassen Ferrani, un peu entre deux rives et pourtant très très bien dans ses baskets.
Je n'ai pas vraiment un rapport d'exilé jusqu'à aujourd'hui, parce que tout en étant ici, j'ai continué à travailler en Algérie. Donc en faisant des fois 10 allers-retours par an, en étant la moitié en Algérie, la moitié en France. Donc j'ai le cordon ombilical, je ne l'ai jamais vraiment coupé entre les deux, quoi. En fait, d'une certaine manière, ça m'a aussi protégé, c'est-à-dire de ne pas travailler ici. Donc je n'étais pas forcément en concurrence, j'étais pas en concurrence avec les gens ici. Je travaillais là où j'ai toujours travaillé. Là où je maîtrise les codes. En France, je ne maîtrisais pas tous les codes. Il y avait quelque chose... j'osais pas envoyer des CV ou demander du travail ici. Donc, ça aussi, c'est une anecdote assez marrante parce que j'étais installé ici, j'avais une carte de séjour, j'étais intermittent assez tôt parce que je travaille ici. Mais à chaque fois, quand les productions t'appellent pour dealer ton contrat... Ils te proposent d'être payé en dinars. Ça, c'était presque systématique, quoi. Ils savent très bien que tu habites à Marseille, que ta vie est là, que... Ouais, est-ce que tu crois qu'on peut te payer en dinars? Et maintenant, je suis un peu rodé au truc. Je réponds gentiment sans leur rentrer dedans, mais de leur dire, mais en fait, mon loyer, moi, je le paye en euros.
Hassen Ferrani, tel que vous l'avez interrogé, interviewé dans ses explorations radiophoniques, Lama Kabandji, qui le dit bien avec un peu d'humour et qui reprend au fond ce que vous avez dit toutes les deux, c'est-à-dire que les migrants dans tous ces parcours singuliers, pluriels, quels qu'ils soient, sont conscients des choses et sont quand même toujours, alors j'ai pas envie de dire victimes, mais victimes d'un regard méprisant, de nos préjugés, de nos clichés. Ça se perpétue terriblement.
Alors oui, mais comme on l'a entendu aussi, ils sont tout à fait capables d'y répondre.
Exactement, voilà, et conscients oui. De tout ça.
Et en fait, je voudrais aussi rappeler que Hassen Ferrani, aujourd'hui, c'est un des réalisateurs de documentaires qui a permis de renouveler l'approche documentaire en France. C'est vraiment quelqu'un qui compte maintenant. Il vit ici. Ses films sont toujours tournés en Algérie. Et un élément très important qu'il a rapporté, c'est que le fait de pouvoir circuler, aussi parce qu'il a les papiers qui lui permettent de le faire, lui permettent aussi d'exercer son travail comme il a envie de le faire, ce qui n'était pas le cas de toute une génération de travailleurs algériens arrivés bien avant lui. Et donc c'est aussi important dans le cadre de nos travaux, notamment nos recherches radiophoniques, pour nous interroger des gens de générations différentes, donc Yazid Oulab qu'on a entendu auparavant et d'une génération plus ancienne.
Où on était plus assigné à résidence en quelque sorte.
Alors Yazid n'a pas trop été assigné à résidence non plus, mais par exemple lui, sa perspective sur la France, sa perspective même sur son travail est très différente de celle de Hassen. Tous les deux ne s'inscrivent pas dans la même temporalité et c'est pour ça que c'est intéressant de multiplier les parcours, les regards portés sur l'immigration et complexifier ces questions-là pour mieux les comprendre.
Parce qu'elles sont extrêmement complexes, Aïssatou Bodji Pouille. On s'en rend compte en vous écoutant toutes les deux. On se rend compte, la conscience, elle est de tous les côtés, de toutes les rives, hein, de la Méditerranée ou de l'Atlantique. On est conscient des choses. Les parcours sont tous complexes. Et on a quand même, alors heureusement, grâce à vos travaux, grâce à ces approches sensibles, on sort un peu des clichés, d'une vision monolithique dans laquelle on vit à longueur de journée, à longueur de temps, surtout si on écoute les chaînes d'infos en continu.
C'est le but, hein, je pense, de nos travaux.
De porter un autre regard, de le faire avec nos oreilles, d'ajouter des approches sensibles, pluridisciplinaires, d'autres regards. C'est comme ça qu'on arrivera à mieux comprendre là, l'émigration, enfin la complexité, la diversité, la singularité et l'universalité du fait que, comme le dit si bien le titre de ce festival, tout migre et tout va continuer à migrer.
Oui, j'ajouterais vraiment l'historicité. J'ai travaillé sur des chants de femmes, des chansons populaires recueillies dans la région de Caille, notamment par la radio rurale. Et ce qui m'a frappée, c'est de voir, d'entendre plutôt des chansons qui, dans les années 80-90, étaient encore, par exemple, de l'ordre de l'exhortation des jeunes à partir et qui aujourd'hui ne sont plus audibles parce qu'on a un discours plus globalisé et qui vient en partie du Nord et des bailleurs qui sont très actifs dans les pays du Sud au nom de l'Union européenne chansons dans lesquelles on va systématiquement mentionner les risques liés à l'immigration clandestine, etc.
Et c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui évolue avec les mentalités.
Oui,
Oui,
il y a des chansons qui aujourd'hui sont anachroniques alors que il y a 30 ans elles étaient très connues. Cette partie effective-là me semble importante à ajouter. Et puis bien entendu les chants de femmes ajoutent aussi la perspective des femmes qui selon leur position d'ailleurs de mère, de migrant, de sœur, d'épouse, vont avoir des discours, des émotions très différentes, mais qui ont beaucoup de choses à dire sur les migrations des hommes et celles des femmes aussi.
Ça pourrait faire l'objet d'une autre émission parce que là on arrive à la fin de celle-ci. Merci infiniment Aïssatou Mbodjipouye pour tous ces sons. Saluer Radio Caille pour nous. Vraiment. Merci Lama Kabandji pour tous ces enregistrements, ces pépites radiophoniques. On se quitte avec une autre de vos pépites musicales. Bah oui, c'est normal, on va s'en aller là de Marseille, on va revenir à Paris. En voiture, elle est un peu moins chargée que Tonton du Bled.
Hey, Tonton, les cabas sont trop lourds.
Allez, monte dans la voiture.
Regarde, ouais, Bill, elle s'en va.
Monte, Bill, elle monte. Hé, Atmen. Allez, monte. Allez, on y va. Hey. Ami Karim, tonton du bled.
Tonton du bled.
Pour tous les Miss Mourt, bled ou bledi. 504 break chargé. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein gasoil et gazous pour pas flancher. Bilel, va pisser. Le temps que je fasse mon petit marché.
Bon bah nous, on va repartir direction Paris, vous aussi, Aïssatou Bodji. Merci d'avoir été avec nous en direct. Lama Kabandji, vous restez à Marseille, vous
Moi, je quitte plus Marseille maintenant.
Vous ne quittez plus Marseille. On y reviendra, on l'espère. Un grand merci à toute l'équipe du festival Allez Savoir, Tout Migre, pour cette deuxième édition de ce festival des sciences sociales à Marseille. Merci pour leur accueil, pour leur engagement. Merci à Hugo Violas pour la réalisation nomade, un peu vantée, improvisée et inspirée ici à Marseille.
Mes amis, alors dans une semaine je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à...
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain depuis Paris pour remonter le temps et nos préjugés sur les femmes. Tiens donc, au temps de la préhistoire. Autour de la question, comment représenter les femmes de la préhistoire sans passer pour autant d'un cliché à l'autre. À suivre demain, toujours avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci de votre fidélité, surtout restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
Je ramène la PlayStation. Oh, la télé du salon, moi. Je crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi?
RFI.